Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionner leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après ? Comment vivre cette renaissance ? Pour qu'elle ne soit pas une petite mort. N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Avant, j'étais une jeune femme facile, insouciante. Je me laissais porter par la vie presque de manière passive. Et depuis le 16 août 2013, je suis une rescapée. Je m'appelle Axelle, aujourd'hui j'ai 30 ans. Je grandis à Paris, dans un environnement très heureux, très insouciant. Moi, je suis une petite fille assez sensible, je pense. Mais voilà, en même temps, j'ai vraiment pas vécu d'événements durs ou compliqués dans mon enfance, je le sais, je le sens et tout le monde le sait que je suis sensible. Il n'y a pas d'événements qui le mettent particulièrement en évidence. Je vis plutôt la vie au jour le jour, de manière pas passive, mais je profite de ce que la vie m'offre, qui est des moments très joyeux. Quand je suis au lycée, alors je suis bonne élève, l'école se passe bien, tout ça, et je m'oriente vers des études d'architecture, et je trouve une école d'archi à Marne-la-Vallée, donc en banlieue parisienne, avec laquelle je matche très bien pendant les portes ouvertes. Et puis voilà, je suis prise sans difficulté, donc... C'est un peu la continuité de la facilité avec laquelle se déroule ma vie, ouais, voilà, jusqu'à maintenant. J'adore, c'est vraiment des études qui sont très prenantes. On est vraiment porté par le flow, les projets, c'est le format, c'est une école, donc on est à la fois nombreux, mais pas trop. On est en autonomie, mais pas trop. Et puis le fait que ce soit à Marne-la-Vallée, on est vraiment un peu dans une bulle dans cette école. On a une bande d'amis qui se forme tout de suite. On reste vraiment très soudés. En fait, voilà, une bonne bande de potes. Les études se passent bien. C'est un peu la folie, le rythme, parce que c'est un rythme un peu fou qui demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de travail à côté, mais très sympa. C'est la découverte. Voilà, c'est génial. En deuxième année, j'apprends qu'on peut formuler des vœux pour partir en Erasmus en troisième année de licence, donc. Et c'est pas extrêmement, extrêmement développé à ce moment-là. C'est-à-dire que de mémoire, je crois qu'il y a 30% des élèves à peu près qui partent. Et puis voilà, et moi, j'ai un ami de l'année supérieure qui est parti en Argentine. Et alors, je trouve ça hyper stylé. Alors, il faut savoir que moi, je connais pas le monde. Voilà, je passe des vacances en dehors de Paris depuis que je suis petite. J'ai déjà voyagé à l'étranger, mais pas régulièrement. Je voyage pas à l'étranger avec mes parents, etc. Et puis, il y a 4 places pour partir en Argentine. Et donc, pour la petite anecdote, à ce moment-là, c'est vraiment un combat pour moi auprès de mes parents d'affirmer ce choix et cette volonté de partir là-bas. Parce que voilà, ils prennent les études d'architecture au sérieux, etc. Mais ils tiennent quand même à ce que j'ai les meilleurs outils pour ma vie future, etc. Et notamment, ils auraient beaucoup aimé que je parte dans un pays anglophone pour développer mon anglais, blablabla. Et en plus, ils ont peur que l'Argentine soit un pays dangereux. Voilà, ils connaissent pas très bien. Et puis donc, moi, j'ai cette grande sensibilité. Et en plus, je suis voilà vraiment quelqu'un de facile. Je parle beaucoup à mes parents, je partage tout. Je suis pas du tout en conflit. Et eux, ils sont vraiment fermement opposés à ce que je parte. Et donc, moi, c'est vraiment un combat pour faire accepter ça. Enfin, j'ai même d'ailleurs fini par mettre le choix anglophone en premier dans ma liste. Et puis, en fait, je ne l'ai pas eu. Et donc, j'ai eu l'Argentine qui était en second. Et d'ailleurs, mes parents, je crois, me croient toujours pas quand je leur dis que j'ai fait ça, alors que c'était vraiment vrai. Je suis prise pour cet Erasmus pour partir un an en Argentine, faire ma troisième année d'études. C'est le grand saut. Et puis, à la fois, je connais rien, mais j'ai hyper envie de découvrir. Voilà, je suis hyper enthousiaste. Alors, à ce moment-là, je suis en couple avec donc quelqu'un qui fait partie de ma bande d'amis des études d'archi depuis quelques mois, 6 bons mois, quelque chose comme ça. Bah, c'est un peu déchirant parce que lui aussi avait demandé à partir là-bas et sa candidature n'a pas été acceptée. Donc pareil, moi, je n'y connaissant rien, j'ai l'impression de voir autour de moi les gens plutôt qui se séparent pour partir en Erasmus, pour vivre leur vie, etc. Donc moi, je lui propose qu'on se sépare. Et donc il me dit « Ah, mais moi, je pensais que tu allais vouloir rester avec moi. » Pour moi, je dis « Bah oui, bien sûr, j'ai envie de rester avec toi. » Mais en fait, j'avais même pas imaginé que c'était possible de faire une relation à distance. Donc voilà, bon, pour le contexte, je pars en Argentine en étant en relation à distance avec mon copain qui reste, lui, en France, faire sa troisième année. Je pars en juillet 2013 et je suis aussi contente de partir à la découverte de la vie et d'une nouvelle contrée que triste de quitter mon copain parce que c'est quand même une séparation prévue pour un an. Donc voilà, je me souviens que vraiment, je pleure dans l'avion, les gens me questionnent et puis moi je leur dis non mais... En fait, je suis triste, mais en même temps, c'est bien parce que du coup, je vais découvrir un pays, vivre là-bas pendant un an et c'est ce que je voulais. Quand j'arrive là-bas, je suis pas toute seule parce qu'on est donc 4 de mon école. Et puis, il y a aussi cette amie qui était partie l'année précédente, qui est restée faire un stage l'année où moi j'arrive. Donc, qui m'accueille et comme il vient d'y passer un an, en fait, il me présente un peu la ville. Et donc ça, c'est vachement sympa parce que je me sens hyper en confiance, hyper intégrée tout de suite. Les Argentins sont des personnes extrêmement chaleureuses. Et lui étant là depuis un an, il a des amis argentins qui me présentent. Il me montre les endroits sympas de la ville pour sortir. En fait, je me sens hyper bien accueillie et pas chez moi encore, mais presque. Et donc, j'emménage dans une coloc où on est 5 en tout. Il y a un Argentin qui est jeune, mais un peu plus vieux que nous. J'ai fêté mes 20 ans en juin et je suis partie en juillet. Et donc, voilà, cet Argentin, je sais pas, il doit avoir peut-être 28 ans ou quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il loue une maison et il sous-loue des chambres à des étudiants. Donc, en l'occurrence, on est 4 étudiantes, 4 filles, super sympas, voilà. Enfin, en fait... Vraiment, je suis là-bas, au bout de 3 semaines, j'ai déjà noué des amitiés, les cours ont commencé, j'ai déjà commencé à vachement bien développer mon espagnol, je découvre plein d'endroits, enfin je suis vraiment en train de m'intégrer super bien. Et par contre avec mon copain, c'est plus difficile et je me souviens qu'au début je suis vraiment très triste et très peinée et je le vis vraiment comme une grande peine de cœur. Et donc, moi, je lui propose de venir me voir en septembre, donc avant que ses cours reprennent. Et à ce moment-là, on est en juillet ou début août. Et donc, en même temps, ça donne la perspective de le revoir dans un mois, quoi. Et il le fait, enfin, il prend ses billets. Donc, moi, je suis hyper contente à cette perspective-là qui débarque dans un mois. Donc, de mémoire, début septembre, quelque chose comme ça. Puis ça me soulage. Là-bas, je me sens complètement à ma place. Je sens que j'ai fait le bon choix, que je suis vraiment dans la continuité du mood dans lequel j'étais partie. Et puis que mes attentes se concrétisent au fur et à mesure, sur tous les plans. Enfin, vraiment, c'est super. Ça fait 3 semaines que je suis arrivée en Argentine. Je vis dans cette coloc avec l'Argentin et les 3 autres Françaises. Je crois qu'on était toutes Françaises. Peut-être une Suisse de mémoire, mais bon, voilà. Donc avec mes 3 colocs. Et il faut savoir aussi qu'on avait pris les cours qu'on suivait étaient à la carte, donc on pouvait choisir nos cours. Et tout le monde s'était fait un peu le plaisir de regrouper ses cours sur les lundi, mardi, mercredi, jeudi pour se donner le vendredi libre et avoir un week-end de 3 jours. Donc là, c'est un jeudi soir, on est fraîchement en week-end. J'ai 2 colocs qui sont déjà partis pour le week-end, ce qui se faisait pas mal pour explorer un peu les environs. Et moi, je pars en soirée. Je me souviens même plus particulièrement de cette soirée, mais elle se déroule de manière vraiment classique. Je rentre aux alentours de milieu de la nuit, mais milieu tôt, quoi, genre 2 heures du mat, quelque chose comme ça. Et alors moi, je suis assez pas noctambule, mais je vis la nuit. Je suis jamais trop fatiguée. J'aime bien me coucher tard. Je procrastine un peu le moment de m'endormir, etc. Et donc à ce moment-là, je rentre chez moi et je vais pas du tout dormir. Alors je prends une douche. Après, j'appelle mon copain, je crois. Pour lui, c'était le petit matin en France. Donc moi, il est probablement quelque chose comme 3 heures du matin. Je suis dans mon lit, je suis en train de parler par message avec mon copain qui est en France et pour qui c'est le petit matin. Et je sais que j'ai 2 colocs à la maison, l'Argentin qui est là, qui a prévu de partir en vacances le lendemain matin ou au milieu de la nuit, je ne sais plus, enfin tôt le matin. Et mon autre coloc française qui, elle, dort dans la chambre qui est juste à côté de moi. Donc on est vraiment dans une grande maison avec un patio. Donc en fait, il y a... Enfin, la maison est configurée, en fait, on ouvre la porte, il y a un portail, il y a un jardin. Ensuite, on entre dans la maison, il y a une première partie de la maison. Ensuite, il y a un patio, donc il y a un grand couloir qui longe ce patio. Et ensuite, au bout de ce long couloir, il y a l'autre partie de la maison où moi, je dors avec ma coloc qui est aussi présente. Et l'Argentin, il a sa chambre à l'étage. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'entends du bruit, mais vraiment beaucoup de bruit. Vraiment comme si quelqu'un était chez soi, déboulé dans la maison, mais en plein jour. Enfin, même plusieurs personnes, en fait, des bruits de voix et un peu des bruits de pas. Enfin, des bruits de personnes qui rentrent pas au milieu de la nuit chez eux, quoi. Et donc, moi, réflexe, enfin, je suis en pyjama dans mon lit, j'ai mon téléphone. Alors, je me souviens que je me lève, j'ouvre la porte de ma chambre et je vais vers ce bruit avec mon téléphone... en guise de lampe, torche, entre guillemets, enfin, juste pour faire de la lumière. Et de mémoire, je dis quelque chose comme « qu'est pas ça ?» Enfin, « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je vois des hommes arriver vers moi. Donc moi, je suis au bout de ce long couloir et eux, ils sont dans ce couloir et ils viennent vers moi. Et donc là, c'est un peu l'enchaînement que je vais essayer de raconter le mieux possible. Mais qui est en même temps un peu, enfin pas flou dans ma tête, mais plus sous la forme de flash un peu. Donc au fait, il y a plusieurs hommes qui arrivent vers moi. Je me rends compte qu'ils sont armés, qu'ils sont un peu avec une dégaine de gangster, quoi, habillés en noir, des foulards qui remontent un peu au niveau de, enfin du cou, au niveau de la bouche, etc. Ils crient, mais vraiment en espagnol, moi je comprends rien. On m'attrape par les cheveux, on me tire par les cheveux. Et on me jette vraiment par terre dans un coin de la pièce. Moi, dans ma tête, je comprends pas. Et je pense à ce que m'ont toujours dit mes parents, qui est, si un jour il t'arrive un problème, tu cries. Comme ça, quelqu'un viendra à ta rescousse, quoi. Donc moi, je crie vraiment. Mon premier contact avec ces gens qui arrivent vers moi, c'est vraiment, je lâche un cri, mais strident. Et puis, on me gueule dessus en espagnol. Et je comprends en fait qu'on me demande de me taire. Enfin, je me souviens vraiment qu'il répétait en espagnol « tais-toi, tais-toi ». Et en fait, je me rends compte aussi que ça sert à rien de crier parce que personne m'entend, parce qu'en fait, je suis dans la maison, que tout est fermé et que les seules personnes qui vont m'entendre, c'est les gens qui sont à l'intérieur de la maison avec moi. Et donc, je me sens vraiment hyper démunie parce que moi, un peu mon seul réflexe, on m'avait toujours dit « si tu te fais agresser, tu cries ». Sauf que dans les hypothèses d'agression possible, en fait, ça se passait forcément dehors. Enfin, moi, j'ai jamais imaginé dans ma vie qu'on allait m'agresser chez moi. Enfin, voilà, mes parents, ils avaient toujours dit ça. Et puis, j'ai réalisé que ça s'appliquait à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Je me rends compte hyper rapidement, en fait, que tout le monde est un peu dans le même état que moi. Donc, moi, on m'a vraiment attrapée et mise au sol. Et en fait, très vite me rejoignent au sol, donc dans cette espèce d'espace qui est devant nos chambres, donc au bout de ce couloir. En fait, je me rends compte qu'il y a aussi ma coloc qui est par terre avec moi et aussi l'Argentin, le deuxième coloc qui est là. On se parle pas du tout et particulièrement moi, je suis tétanisée. Enfin, je suis vraiment paralysée, quoi. En gros, j'ai eu l'expérience de la dissociation où, en gros, je me suis vue du haut de la pièce, enfin comme si j'étais une petite caméra dans le coin, dans un des angles supérieurs du plafond. C'est cette scène, en fait, où on est au sol, dans cet espace-là, devant les chambres, sur un carrelage un peu froid. Et cette scène-là, je l'ai vécue d'en haut et où on nous crie de nous taire et on nous agite des armes devant nous, quoi, pour nous menacer. Moi, je comprends pas. Les gens nous parlent, je comprends pas ce qu'ils veulent nous dire parce que j'ai aussi ce truc où j'essaie de comprendre aussi et j'y arrive pas. Ce moment-là, c'est un moment qui est très dans le mouvement, donc je pense que je ressens plus que je pense. Par contre, il y a le moment d'après qui est un peu le prochain flash que j'ai, mais je saurais pas dire la transition entre les deux. On est dans ma chambre, donc ils nous ont tous mis dans ma chambre. Moi, je suis au sol, je suis à genoux, au pied de mon lit. Et ma coloc, elle est assise sur le lit. Et l'autre coloc, il est là aussi, je sais plus très bien où. Je crois au sol avec moi. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est un moment où ils sont cinq, les hommes qui étaient là. Et donc, dans le moment d'avant, ils étaient un peu tous là en même temps, à gueuler, à dire des choses. On comprenait pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas ce que je devais faire. Et là, par contre, y en a qui repartent dans d'autres endroits de la maison. Et il n'y en a plus qu'un ou deux. Et je me rends compte que j'ai plus réfléchi à ce moment-là, quand j'étais agenouillée au pied de mon lit. À ce moment-là, je pense que je suis en fait dans un fait divers, quoi. Et du coup, je pense que je vais être violée, puis tuée. Et j'ai très peur. Enfin, je pense que c'est l'image qu'on a des films, etc. Mais j'ai très peur qu'on me mette un sac sur la tête et qu'on me jette dans un camion. C'est, enfin voilà, violée. Sac sur la tête, camion et tué. Moi, j'ai entendu dire qu'en Amérique du Sud, de manière générale, c'est des pays où on peut rencontrer de la violence. Par contre, que l'Argentine, c'est quand même un pays plutôt safe pour l'Amérique du Sud. Quand je sors, il faut pas que j'exhibe mes choses précieuses, qu'il faut que je fasse attention, qu'il vaut mieux rentrer en taxi plutôt qu'à pied. Mais ça s'arrête là. J'ai pas le souvenir qu'on se parle avec mes colocataires à ce moment-là. Je sais que ma coloc, donc je parle beaucoup d'elle parce que je suis devenue particulièrement proche d'elle par la suite. En fait, elle a pas du tout la même réaction que moi. Donc moi, je suis vraiment paralysée, mais en même temps avec beaucoup de sang-froid. Donc je suis un peu en réflexion à ce moment-là. Elle, je sais qu'elle parle beaucoup. Elle communique avec nos agresseurs. À un moment, elle leur demande « s'il vous plaît, laissez-nous nos passeports ». Et moi, je me dis, mais on est vraiment sur deux planètes différentes parce que moi, je suis vraiment, s'il vous plaît, ne nous violez pas, quoi. Mais je le dis même pas, j'essaie de m'écraser le plus possible. Je me souviens du carrelage froid. Ça, c'est vraiment hyper marquant. Je me souviens d'être frigorifiée, donc vraiment pétrifiée, quoi. Ce qui m'amène à avoir ces réflexions un peu glauques, c'est aussi que, en fait, ils vont nous attacher les mains dans le dos et ils vont nous bander les yeux. Donc, tout ça au fur et à mesure et avec les moyens du bord. Enfin, ça fait vraiment un peu gangster, un peu vieux gangster tout pourri, mais en même temps, ça fait peur, quoi. Donc, je sais que moi, ils m'attachent les mains avec la corde à sauter de ma coloc. Et en fait, je les vois attacher les mains de ma coloc aussi et lui bander les yeux avec des collants. Donc, ils sont mes collants parce qu'on est dans ma chambre et ils les ont pris. Et en fait, là, je me dis, mais c'est fini. Enfin, c'est horrible, en fait. Enfin, vraiment, fait divers, film, mauvais film, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et en plus, je vais pas voir. Et alors, avant qu'ils me bandent les yeux à moi, ils m'agitent des trucs devant les yeux. Donc, je me souviens que j'ai une pochette. Donc, pour remettre aussi dans le contexte de l'Argentine à ce moment-là, c'était avant la crise qu'il y a plus récemment. Et en fait, il y a un marché noir avec l'argent qui fait que quand on vient de l'Europe et qu'on arrive avec des euros ou des dollars en liquide, on peut les changer sur ce marché noir très facilement. Enfin, c'est vraiment extrêmement répandu là-bas. Enfin, c'est pas glauque de faire ça. C'est vraiment dans des endroits normaux qui font pas peur, etc. Et on peut les changer. Et en fait, on gagne. Enfin, le taux fait que on y gagne plus du double que si on retirait dans un distributeur. Donc, en fait, tout le monde est briefé sur le fait qu'il faut arriver en Argentine avec de l'argent liquide. Et il y a aussi des moyens de s'en faire envoyer depuis nos pays respectifs. Et donc, moi, j'étais arrivée en Argentine avec beaucoup d'argent liquide qui était dans une petite pochette qui était fermée avec un cadenas. Et donc, ils agitent cette pochette devant mes yeux, ils me demandent le code et moi, je leur donne. Et vraiment, je me fais la réflexion de me dire, je sais même pas comment je fais pour me souvenir de ce code-là. Et j'étais hyper contente de leur donner, quoi, parce que j'avais hyper peur de ce qui me serait arrivé si je leur avais pas donné ce code. Et après ça, ils agitent des objets devant nous. En fait, je comprends qu'ils retournent un peu la chambre et plus largement l'appartement. Ils me mettent mon bonnet sur la tête qui me descend devant les yeux, mais que évidemment, je peux pas toucher parce que j'ai les mains attachées dans mon dos. Et je me souviens penser, ah bah c'est mon bonnet, c'est rassurant. Enfin voilà, j'ai pensé ça. Je pense aussi à ce moment-là que c'est vraiment hyper con comme mort. Parce que déjà, j'ai deux colocs qui sont partis en week-end. Moi, j'aurais très bien pu partir en week-end, je l'ai pas fait. Je suis rentrée de soirée une petite heure avant. J'aurais très bien pu être encore à ma soirée, mais non, je suis rentrée. Je pense au fait que mes parents ne voulaient pas que je parte en Argentine et que moi, je me suis battue pour y aller. Enfin, je me dis que je vais mourir, que c'est vraiment très con comme mort parce que je suis jeune, que je suis entourée de plein de personnes que j'aime et qui m'aiment. Et en fait, je pense à toutes ces personnes-là, donc principalement ma famille, mes parents, mon frère et ma famille plus élargie, mes cousins, mes oncles et tantes, et à mon copain. En me disant, les pauvres. Et le fait qu'eux, ils soient armés de schlingues, en fait, je me dis, au moins, ce sera rapide, parce que j'ai l'image qu'une mort par balle, c'est rapide. Et je suis sur ce carrelage qui est hyper froid, et je suis vraiment frigorifiée. Enfin, je me souviens du froid, c'est vraiment la sensation qui m'habite à ce moment-là. Et du temps se passe. Après coup, on se rend compte que c'est pas tant de temps que ça, peut-être en tout une heure, mais sur le moment, c'est une éternité. Et puis, de moins en moins de bruit, de moins en moins d'agresseurs qui font des allers-retours, qui sont auprès de nous, qui nous parlent, etc. Et puis, à un moment, à la fin, il y en avait plus qu'un qui nous dit, c'est vraiment complètement... Enfin, je comprends même pas cette réflexion. Il nous dit en espagnol, et ça je le comprends, « S'il vous plaît, ne nous dénoncez pas à la police, j'ai une femme et des enfants. » Et c'est complètement lunaire. Et ensuite, il part. Et puis, il y a un temps de grand silence et de grand froid, moi j'ai très froid. Et vraiment, relativement peu de temps après, bon, nous, on bouge pas parce que on comprend pas en fait qu'ils sont partis peut-être définitivement. On sait même pas s'ils sont encore dans la maison ou pas. Donc en tout cas, moment de paralysie et moment un peu suspendu. Et au bout d'un petit temps, il y a d'autres voix, d'autres gens qui arrivent et qui nous détachent. Et en fait, là, on comprend que ce sont les amis argentins, donc de mon coloc argentin, qui devaient partir au petit matin en vacances à la montagne, en voiture, et du coup, ils voulaient partir très tôt, 5h du mat ou 4h du mat, pour éviter le trafic ou je sais pas quoi. Là, ils sont rentrés dans la maison qui était ouverte, et ils nous ont trouvés, et ils nous ont, entre guillemets, libérés. Donc là, l'état des lieux de la maison à ce moment-là, c'est que vraiment, la maison est retournée. Les placards sont vidés, enfin vraiment l'image du cambriolage, en fait les vêtements sont sortis, il y a des touffes de cheveux par terre et la maison est retournée et la grille est ouverte et les agresseurs sont plus là. En fait, moi je m'écroule et justement j'étais un peu en mode sang-froid jusque-là et là je lâche tout, je suis en larmes et je suis incontrôlable et en fait... là, tout se brouille dans mon cerveau. Enfin, là, je formule rien du tout. Enfin, juste, je m'écroule. Et en fait, j'ai mes émotions qui sortent parce qu'elles n'étaient pas sorties avant. Et je me souviens encore du contraste avec ma coloc qui, elle, récupère vraiment du sang-froid et qui prend les choses en main, mais littéralement. C'est-à-dire qu'elle dit, il faut qu'on appelle nos parents. Moi, ça m'était même pas passé par la tête encore. Elle appelle ses parents et après, elle raccroche en disant, voilà, il faut qu'on aille à l'ambassade, au consulat. Et en fait, moi, j'y aurais même pas pensé. Donc, on est sorti de la maison et on est devant la maison avec les amis argentins de notre coloc qui nous prête un téléphone qui lui permet de joindre ses parents. Alors, donc, derrière, on est hébergé provisoirement pour la nuit qui suit chez les amis argentins de notre coloc. Le lendemain, on va à l'ambassade ou au consulat ou les deux, je ne sais plus. Donc, on informe entre-temps, pendant la nuit, en France, les personnes, nos parents et puis mon copain. Et moi, j'informe aussi les trois amis de mon école qui sont en Argentine avec moi. Et puis, nous, le réflexe, c'est qu'on a envie de rentrer en France. Alors, avant ça, juste aussi, on est allé à l'ambassade ou au consulat, et je ne sais plus lequel des deux, nous a demandé si on pouvait identifier nos agresseurs. Moi, j'ai répondu que je pouvais en identifier un, parce que c'est vrai, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Et ils nous ont dit, OK, super, par contre, quand vous irez porter plainte, on vous posera cette question, et par contre, vous devez répondre non. Et en gros, ils nous ont alertés sur le fait que la police pouvait être corrompue dans ce pays. Et donc, en fait, ça, sur le moment, j'ai pas réalisé, mais après coup, je réalise que ça accentue aussi le traumatisme, ou en tout cas, ça le biaise un peu, dans le sens où, mon statut de victime, il n'est pas du tout reconnu, en fait. Moi, c'est l'expérience la plus traumatisante de toute ma vie. Et en fait, on nous déconseille de pousser trop loin le combat administratif, quoi. Je parle même pas juridique, juste administratif, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est assez dur à entendre, même si sur le moment, je réalise pas trop. Et donc, j'ai pris un temps pour réfléchir. Et avec ma coloc, le réflexe, c'était de vouloir rentrer en France. Et en fait, elle s'était fait voler son passeport. Elle qui avait supplié qu'on lui vole pas. Et donc, on s'est dit... Attendons qu'elle récupère son passeport, déjà, un moyen de rentrer, et ensuite on avise. Et puis, entre-temps, y avait aussi mon copain qui devait arriver sous peu, vraiment sous une dizaine de jours ou deux semaines grand max. Et on a décidé d'essayer de rester toutes les deux, donc de trouver une autre maison. On n'a jamais remis les pieds dans cette maison, de trouver une autre coloc plus sécurisée. Et à ce moment-là, ça me convient d'essayer de rester. Et comme j'ai mon copain qui arrive sous peu, je décide de profiter de sa présence pour vraiment couper avec la fac là-bas qui à ce moment-là paraît complètement dérisoire comme intérêt, etc. Et donc, on coupe, on va voyager pendant trois bonnes semaines de mémoire. Et donc après, le plan, c'est que voilà, je reviens, je retrouve ma coloc dans notre nouvelle maison et puis on essaye. Et donc, on trouve une nouvelle maison qui est bien sécurisée, en étage, porte blindée. Et puis, en fait, on arrive à rester. Moi, j'arrive à reprendre les cours. Et en fait, c'est un peu l'engouement de l'échange universitaire. En fait, y a un peu cet esprit de découverte, de ça va à mille à l'heure, on rencontre des gens, on sort, on n'est jamais seul. Parce que quand on est en Erasmus, on est tout le temps en groupe. Nos amis, c'est notre famille là-bas. Et donc, en fait, le temps passe, quoi. La vie passe et... je saurais pas dire, à ce moment-là, je suis plutôt vraiment dans l'esprit d'aller de l'avant. En ayant informé en France les personnes qui m'étaient arrivées ça, mais pas au-delà, quoi. Je rentre à Noël en France et je me dis, vu ce qui m'est arrivé, ça paraît dans l'ordre des choses d'aller voir un psy. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Dans ma famille, on n'est pas... je connais personne qui le fait. Puis à l'époque, j'ai 20 ans, machin. Mais je me dis, vu ce qui m'arrive... Et puis, je rentre assez longuement en France parce que là-bas, en Argentine, les vacances d'été durent très longtemps, 3-4 mois. Et je passe 2 mois en France. Donc, je vais voir une psy qui fait de l'EMDR, donc c'est la psy post-traumatique. Et puis, voilà. J'ai le souvenir qu'elle me demande vraiment « Est-ce que vous voudrez parler d'autre chose que de cet événement ?» Et moi, non, pas du tout. Et puis même, j'y vais un peu parce que je me dis que c'est bien. Mais ça éveille rien en moi et puis je fais quelques séances et puis j'arrête. Et puis je repars en Argentine pour le deuxième semestre de cours. Et donc à ce moment-là, je venais de passer 2 mois avec mon copain qui me dit la veille de mon départ, en fait, qui pense qu'il vaut mieux qu'on reste pas ensemble pour la deuxième partie de l'année. On vient de passer 2 mois ensemble et je pleure beaucoup en même temps. Je comprends Pas trop, parce que à l'origine, c'est lui qui avait plutôt voulu qu'on reste ensemble. Et puis, en fait, je repars. Et donc là, le deuxième semestre se passe pareil, très bien en Argentine. Donc là, je déménage dans un nouveau quartier qui est censé être plus populaire, plus dangereux. Mais au fait, moi, je me sens très bien. Il m'arrive aucun souci là-bas. Et puis, je finis cette année, pareil, qui se déroule hyper bien avec toutes les attentes qu'on peut avoir d'une année en Erasmus et cette peine de cœur qui est quand même hyper présente parce qu'en plus, on continue à discuter beaucoup. Et en fait, c'est en rentrant en France que je vais avoir un peu des rappels traumatiques de cette agression. En fait, c'est vraiment, j'y pense pas du tout en permanence, mais il y a des événements hyper ponctuels et venus de nulle part qui vont me le ramener. Et j'ai mille exemples des enfants qui jouent avec des pistolets à eau dans un parc. Pour moi, c'est vraiment, je fonds en larmes. Et en fait, je fais une crise de panique pendant les deux dernières années de master d'archi. Je suis en coloc avec une amie et on est juste deux. Quand elle est pas là, moi, c'est très compliqué d'être toute seule chez moi. Ce que j'avais pas en Argentine, parce que c'était des grandes colocs de 4-5, j'étais jamais dans cette situation. Et ça, en fait, des rappels comme ça, j'en ai jusqu'à maintenant. Enfin, si on sonne chez moi et que j'attends personne, déjà quand je rentre chez moi, que je suis toute seule, je ferme. C'est aussi le réflexe un peu de... moi, je repère tout le temps la sortie de la pièce dans laquelle je suis. Voilà, c'est des trucs un peu irrationnels. Je vis avec parce que je me dis qu'il faut que j'évolue. Enfin, il faut que je surpasse ça. En gros, mes années d'études se terminent un peu. Les études d'architecture, c'est très prenant. Et en fait, il y a toujours un peu ce truc de la vie va hyper vite. Et moi, je ne me pose pas pour un peu rétro-pédaler sur ce qui m'est arrivé. Et je suis vraiment focus sur aller de l'avant, le surmonter, dire que je vais de l'avant. Et je me rends compte quand même, à la fin de mes études d'archi, que je suis pas très heureuse dans mes études. Enfin, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Que j'ai des traumatismes qui sont pas surmontés parce que j'ai tous ces trucs qui se rappellent à moi et je me rends compte que c'est pas possible. Et je fais un peu un petit bilan en me disant, Axel, là, t'as 25 ans. En fait, je sais pas, c'est probable que tu rencontres l'homme de ta vie bientôt. Est-ce que t'as envie de lui faire subir tes traumas? Non. Et donc pareil, je suis pas heureuse dans mon couple parce que, si on peut appeler ça un couple, mais du coup, pendant... les 4 ans qui ont suivi l'Argentine, je suis un peu en mode in and out avec ce copain de l'époque avec lequel j'ai une relation vraiment malsaine parce qu'on n'arrive pas à être ensemble, mais on n'arrive pas non plus à se quitter. Donc, ça fait beaucoup de mal et moi, je n'arrive pas à m'affirmer là-dedans. Enfin, j'essaye de le quitter, mais j'arrive pas. Enfin, voilà. Et je me dis, t'es pas heureuse dans ton couple. T'as envie de passer à autre chose dans ton univers professionnel. Et à côté, il y a des traumas que tu n'arrives pas à surmonter. Donc, je fais un peu le bilan et je me dis, je vais me prendre un appart toute seule pour un peu me forcer à affronter le truc. Et en fait, j'ai un peu la volonté vraiment de me reconnecter avec moi-même au lieu d'être un peu dans la fuite en avant. Alors, c'est vraiment trop drôle parce que j'ai lu dans les toilettes d'un bar avant-hier une citation qui vraiment illustre un peu mon état d'esprit à ce moment-là et je pense mon état d'esprit depuis ce moment-là en lien avec mon traumatisme qui est « On a deux vies, la deuxième commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une ». C'est vraiment ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Et en fait, je décide de me prendre en main, de me poser et de m'écouter. En fait, je trouve à travers cet événement la conscience de la vie, du fait qu'on n'en a qu'une et la volonté de la vivre pleinement et en toute conscience et en accord avec mes principes, mes valeurs, qui je suis. Et donc la volonté d'approfondir un peu tout ça au lieu de un peu se laisser porter par cette jeunesse, par ces vies parisiennes en plus qui sont très très animées, très dans l'occupation tout le temps. En tout cas, alors pas forcément un nouveau sens dans le sens d'un nouvel objectif, mais un nouveau sens dans la manière d'arriver à mes objectifs, donc plus la manière de vivre ma vie au jour le jour et aussi justement une certaine sérénité. Et en fait, je suis hyper consciente de la chance que j'ai de profiter de tous les petits moments de la vie. Et en fait, je donne beaucoup de temps à ma famille, je donne beaucoup de temps à mes amis, je essaye de me donner un petit peu de temps à moi-même aussi. En fait, c'est vraiment dans les petites choses simples de la vie. Parce qu'en fait, je sais pas, à nos âges, aujourd'hui j'ai 30 ans, c'est très facile d'être en quête de quelque chose, un peu en quête permanente, avec les reconversions professionnelles. Et moi, en fait, j'essaye de trouver du bonheur dans les choses que j'ai, un peu au lieu d'essayer d'aller chercher le bonheur que je n'ai pas. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai appris de ce drame-là, et c'est vraiment ce qui ressort au quotidien dans ma vie. Je sens vraiment que cette épreuve, elle m'a apporté cette vision-là, dont je suis convaincue que je l'aurais pas eue si j'avais pas vécu ça. En tout cas, peut-être que j'y aurais accédé plus tard, mais vraiment pas dès maintenant. À ce moment-là, je suis toute seule, un peu en train de me recentrer sur moi-même, dans mon premier boulot, mon premier appartement toute seule. Et puis voilà, en fait, moi, je suis persuadée que les choses qui nous correspondent arrivent quand on est pleinement nous-mêmes et sainement nous-mêmes, on va dire. Donc, je rencontre John, qui est mon amoureux, que je rencontre à Londres. Donc, lui vit à Londres et moi, en fait, je vais passer le week-end chez une de mes amies que j'ai rencontrée en Argentine, qui est partie s'installer à Londres quand elle est rentrée. Et je vais passer le week-end chez elle et par amis d'amis, fêtes, etc., je rencontre John. Lui aussi a vécu des expériences un peu traumatisantes dans sa vie, dans un autre cadre. C'est quelqu'un qui incarne vraiment tout ce dont je parlais, donc cette simplicité, mais en même temps pas passive, qui est vraiment le fait de profiter simplement, sainement et pleinement de la vie qu'on nous offre. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la plus belle rencontre de ma vie. Et donc, je le rencontre via cette amie. Et donc, quand je comprends que voilà, c'est l'homme de ma vie, que voilà, c'est la personne, etc., j'aime un peu lier cette rencontre à cet événement malheureux aussi. Parce qu'au fait, cette amie via qui j'ai rencontré John, je l'ai, elle, rencontrée suite à mon déménagement, suite à l'agression. Et j'aime me dire, si je n'avais jamais déménagé, je n'aurais jamais rencontré cette amie et je n'aurais jamais peut-être rencontré John. Donc, c'est un clin d'œil que je me fais depuis très longtemps dans ma tête en me disant, on va pas pousser les curseurs et dire que cet événement traumatisant m'a fait rencontrer l'homme de ma vie, mais indirectement, je trouve ça joli de me dire ça. Et donc là, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble et que je vis cette nouvelle vie un peu, ce renouveau et cette vie en pleine simplicité et en pleine conscience avec lui. En 2023, j'ai commencé à voir approcher les 10 ans de mon agression. Et donc, par exemple, John, moi, je lui en ai parlé de cette agression, mais j'ai jamais trop approfondi le sujet avec lui. Je lui en ai parlé comme quelque chose de passé. Et donc, en fait, à l'approche des 10 ans, il y a plein de sentiments qui se sont réveillés en moi, qui se sont ravivés. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais hyper perturbée et que j'y pensais beaucoup. Je savais que les 10 ans approchaient, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais refoulé la date de mon agression, que je m'en rappelais pas. Et je savais que c'était en août 2013, mais je connais pas la date. Et en fait, ça m'a perturbée. Enfin, j'ai formulé dans ma tête le fait que je connaissais pas cette date et que ça me perturbait. Et donc, j'ai essayé de la retrouver, donc notamment en cherchant à accéder à mon ancienne adresse mail, donc l'adresse un peu poubelle dont je ne connais ni le mot de passe, ni le mot de passe de sécurité, etc. J'ai pas réussi. Et donc voilà, août passe, l'été passe, et en automne donc 2023, je découvre le podcast Les Rescapés. Mais il se trouve que le premier épisode que j'écoute, c'est celui de Chloé qui s'est fait agresser en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est pas la même nature d'agression. Enfin, en fait, ça m'a vachement touchée. Et en fait, je me suis retrouvée en larmes à écouter son podcast. Et à me dire, waouh, mais en fait, je crois que j'ai quand même des choses quand même à régler encore avec ça et que même si je fais au mieux dans cette nouvelle dynamique de vie, je pense que j'ai encore des choses à régler. Donc, d'écouter l'histoire de Chloé, ça m'a donné envie de témoigner moi-même de mon histoire comme une forme de thérapie, en me disant, je pense que ça peut me faire que du bien. parce que le reste n'a pas marché et visiblement j'ai encore des choses peut-être à creuser un peu là-dedans. Et donc en rédigeant mon histoire dans le but d'enregistrer peut-être ce podcast, en fait donc là ça m'a vraiment frappé le fait que les titres des épisodes sont les dates des traumatismes qu'ont vécu les personnes. J'y ai vu comme un signe et je me suis dit il faut que je retrouve cette date parce que ça me perturbe. Et donc, un jour, je me mets devant mon ordinateur et je donne tout et j'arrive à accéder donc à cette ancienne adresse mail, à ces anciens échanges et à trouver la date de cette agression qui était donc le 16 août 2013. Donc déjà, juste d'apprendre cette date, ça m'a vraiment fait quelque chose. Donc je pense que j'avais vraiment besoin de la retrouver. Et mon deuxième réflexe, ça a été assez naturellement de me demander qu'est-ce que je faisais pour les 10 ans vu que ça avait été assez important dans ma tête. Qu'est-ce que je faisais le 16 août 2023, au moment des 10 ans de mon agression? Et alors, donc je me souviens que j'étais en vacances en Écosse avec John. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que c'est, on avait réservé un hôtel ce jour-là, donc j'ai la trace de la date. Et en fait, c'est le jour où John m'a demandé en mariage. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment bouleversée de me rendre compte de cette coïncidence qui est plus qu'une coïncidence. Enfin, c'est-à-dire que même si j'avais retrouver ma date avant que je l'avais partagée avec lui, qu'on avait été conscient de cette date ce jour-là, il m'aurait jamais demandé en mariage à ce moment-là. Enfin, je sais pas, si on l'avait su, ça n'aurait pas pu arriver. En plus, le fait que je liais déjà ma rencontre avec lui, avec cette agression, voilà, de manière indirecte, ça m'a vraiment bouleversée et donné un sentiment de la boucle est bouclée, entre guillemets. Et je trouve que c'est vraiment porteur d'un grand espoir pour le futur, voilà. Et cette nouvelle partie de ma vie qui arrive puisqu'on se marie dans 2 mois. Et finalement, je me rends compte que cet événement très malheureux m'a apporté quelque chose de positif et aussi de constructif pour la suite de ma vie. Et maintenant, je le vois comme un événement structurant qu'il faut pas que je nie parce que je l'ai beaucoup voulu le faire et même quand je me suis replongée dans mes échanges de mails de l'époque, j'en parle pas du tout de la même manière. Je minimise beaucoup les choses. Je dis, je me suis fait voler mes affaires, mais tout va bien. Enfin, alors que c'est pas du tout ce qui est arrivé. Cet événement, ça m'a apporté à retardement, mais une nouvelle lumière sur qui je suis et sur la vie que je veux mener.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.